Très bonne fin de soirée à vous, Judith Chen, et bien sûr, à samedi prochain.
France Musique.
À l'improviste aime depuis toujours s'arrêter entre deux concerts sur une figure marquante de la musique improvisée. En ce mois d'avril, à l'improviste a choisi de tirer le portrait du contrebassiste Bart Phillips à l'occasion de son 80e anniversaire. Ce portrait, nous sommes allés le chercher dans nos archives. Il a été réalisé en 2008, mais il est encore très actuel. Happy birthday, Bart Phillips.
On fait quoi maintenant ?
On improvise.
À l'improviste, portrait. Il était une fois Bart Phillips, contrebassiste improvisateur, né à San Francisco en 1934. Bart Phillips se raconte. Il nous raconte une vie qui s'est improvisée au fil des rencontres. En France, la figure de Bart est si familière depuis qu'il a choisi de s'installer dans le Sud qu'on en oublierait presque ses racines californiennes. Mais ses racines sont là et en bon jardinier, Bart Phillips sait à quel point elles sont importantes. Avec lui, suivons le parcours des racines au feuillage.
D'abord, il faut savoir que j'ai un frère aîné de 4 ans, et qui était entré dans le monde musical à 7 ans. Il était pour nous dans notre petite bled de Palo Alto, en Californie, et la petite école comme ça, il était un virtuose à la trompette. Et donc, il a trouvé une maison qui le convenait, donc la musique, très jeune. Donc, il emmenait des disques à la maison pour l'écoute. Avec ses 4 ans de différence d'âge, donc il est parti à 18 ans de la maison, donc c'était très tôt pour moi qu'il y avait ces disques-là. Donc j'ai découvert le Dixieland Jazz et surtout Bartók et Stravinsky. Et j'étais pris par cette musique complètement. Je me souviens, c'était en mono, il y avait un haut-parleur, de prendre le haut-parleur, de le mettre par terre et de me coucher et mettre ma tête dans le haut-parleur et écouter les quatuors de Bartók. Et ça, j'avais aucune préparation pour ça. Ça m'a parlé complètement, cette chose, comme ça. Et comme le jazz. Quoi, le jazz New Orleans, d'écouter beaucoup de choses. Bon, le reste est venu naturellement quand j'ai commencé avec l'instrument, à 13 ans. Je suis sorti de lycée, donc high school, en 52. Donc, ça veut dire l'enfance pendant la guerre, mais pas touchée comme les Européennes, hein, bien sûr. Et ensuite, la grande époque américaine d'après-guerre, quand il y avait beaucoup de richesses, beaucoup de travail, donc d'être élevé dans en classe moyenne, complètement, hein. C'était pas des gens riches, parce que la ville de Palo Alto, où j'ai passé la plupart de mon enfance, c'est la ville de soutien de l'université de Stanford. Et donc beaucoup de gens très aisés qui habitaient là et de par là. Mais comme toujours, nous n'aimons pas ça. Nous, on n'était pas les pauvres, on était classe moyenne. Quand il y avait une classe moyenne, comme ça. Et donc, il y avait tous les avantages. Par exemple, les écoles étaient extrêmement très, très équipées pour les arts. Pas uniquement la musique, mais pour le théâtre, pour la peinture, etc. Et beaucoup d'activités. Il n'y avait pas comme maintenant, il y avait des cours de musique à l'école publique, mais il y avait des activités. Donc, ce n'était pas dans le cursus, mais c'était des choses comme au système américain. Tu as aussi de sport à l'école. Sport, art, peinture, théâtre, musique, la danse même, à l'école publique. Et ensuite, universitaire. Donc, avec le résultat qu'aujourd'hui, la plupart des artistes actifs, ils travaillent à l'université. Quoi.
Est-ce que tu as hésité entre plusieurs instruments ou le choix de la contrebasse s'est fait assez naturellement ?
C'était tout de suite la contrebasse. Et c'est arrivé de manière très soudaine, comme ça. Et c'était assez magique, la chose. Un recrutement fait par la personne qui s'en occupait de musique instrumentale et de junior school et qui faisait son speech devant un paquet de gosses comme ça pour essayer de recruter des enfants et en disant il y a la place à la contrebasse, j'ai dit ah oui mais ça c'est moi, oui avec un grand flash.
Première grande rencontre musicale sur le parcours de Bar Phillips, le saxophoniste Ornette Coleman.
J'ai rencontré Ornette par mon frère, justement, qui travaillait éventuellement dans ce circuit de Gunther Schuller, John Lewis, Orchestra USA et le mouvement de troisième courant. C'était sa génération entre le classique et le jazz. Hein. Donc, on était venu à San Francisco de Los Angeles pour rencontrer John Lewis. Et comme mon frère, il connaissait tout ce monde-là, il m'a invité à venir. Donc j'ai entendu Ornette en privé, si vous voulez, Ornette et Don Cherry. Et deux ans et demi plus tard, je l'ai rencontré dans la vie privée. Et il est revenu en Californie en vacances. Et il a amené son saxophone aussi. Et il a joué avec nous. Et il a dit après, merci beaucoup. Nous, on jouait des standards, etc. Il a dit merci. Non, c'est nous. On connaissait déjà sa musique sur le quartet, hein, qui était fascinant. Il a dit, mais pourquoi vous jouez cette musique écolier? Pourquoi vous ne jouez pas votre propre musique? Et qui était un énorme truc pour moi. Ouais. Mais il faut aussi dire, quand j'avais commencé mes premières expériences d'improvisation libre et de composition graphique, etc., comme ça, en petite formation avec un percussionniste de San Francisco Symphony. Donc tout ça se passait à Berkeley, hein. Berkeley, Californie. Donc à cheval entre le jazz, la musique contemporaine, etc. Déjà bien avant que cette rencontre avec Ornette qui était pour moi déterminante dans le sens, oui, il a raison, c'est pas la peine de faire ça, il faut chercher. Il faut aussi voir tout le climat social qu'il y avait à ce moment. Donc, ce n'était pas encore flower power, mais tous les graines étaient là pour la soi-disant révolution culturelle, quoi. Et réassertion de l'individu d'abord pour faire une collectivité plus intéressante après, qui n'a pas marché. Après, en 62, je suis immigré à New York. Et là, c'était la fourmière dans la création de musique contemporaine. Donc, mon frère, il était branché là-dedans, mais je ne suis pas appuyé de tout là-dessus. Ni lui, ni moi voulaient faire ça. Mais j'ai fait des rencontres, etc. Donc, j'étais très, très vite là, dans l'engrenage de ça. Et donc les compositeurs qui font des recherches avec les instrumentistes qui sont d'accord pour le faire, etc. Donc moi, je n'étais pas le premier à faire ça. Il y avait pour nous, en contrebasse, Bert Turetsky. C'est lui le papa de la contrebasse contemporaine aux États-Unis. Et lui, il était vraiment en contemporaine. Où moi, j'ai gagné plus ma vie dans le jazz, comme ça. Et pas dans l'académie, mais dans le jazz. Et des choses, des coups de bol, des coups de chance, par exemple, de jouer avec des gens dans une musique très expérimentale et de finir dans le même élan des choses, à jouer avec, comme soliste avec le New York Philharmonic, dans des choses comme ça. Quelqu'un inconnu, ça fait un an et demi que j'étais à New York. Et donc, mon premier vrai enregistrement professionnel, c'était avec Bernstein. Donc, j'ai dit, en rigolant, j'ai commencé en haut et je fais que descendre après. Thank you.
Jeu de rencontres et de hasards, dans le New York des années 60, la route de Buffy Lips croise celle du compositeur Günther Schuller et du saxophoniste Eric Dolphy. Des micros ont été posés et la rencontre reste gravée.
Avec Dolphy, c'était un coup de bol. Je suis à New York 6 mois et je suis engagé pour jouer un deuxième contrebasse dans un concert de Third Stream Music, dont il y avait une composition de Abstractions de Günther Schuller, qui est pour un orchestre de chambre, dont il y a 2 contrebasses, et était à l'origine écrit pour Ornette Coleman. Et pour cette présentation de la pièce, c'était pas Ornette, c'était Eric Dolphy. Et donc, il y avait des bandes témoins, en fait, que Günther avait fait, et qui sont sorties en disque après, mais 30 ans plus tard. Et c'est qu'à la fin, on a fait un jam session parce que le public réclamait encore des choses. Richard Davis, qui était basse numéro 1, il est parti pour un autre boulot. Donc, il n'y avait resté que moi. Et Günther Schuller a dit, vas-y, joue. Donc, il y avait plein de gens bien intéressants. Donnelly, je crois, on joue comme ça. Et il y a de Dolphy incroyables sur ça. Mais ce que pour moi m'intéresse, c'est un solo de contrebasse sur la plage. Et on entend les graines de tout ce qui va venir là-dedans, dans un standard où je joue plus ou moins normalement. Et ça me fascine de voir ces traces de choses, de, quand tout était en formation, avant formation, comme ça. C'est fascinant. C'est pas dans le son encore. Mais c'est dans la question de forme et le problème rythmique. Qu'est-ce qu'on fait avec le rythme? Et qui on voit, et que même je me souviens donc des choses avant l'enregistrement. Et ça, et quand j'étais petit comme ça, où j'étais obligé de travailler comme une bête pour jouer correctement, entre guillemets. Et de, surtout rythmiquement, parce que j'étais pas comme ça. Et l'harmonie aussi. Et l'harmonie. C'est quoi le mouvement harmonique, quoi? Et le, chacun qui est dans la création, comme ça, dans la musique, il aborde ces choses. Hein. Le son est venu plus tard. C'est venu donc en Europe.
New York toujours, rencontre furtive parfois et parfois rencontre au long souffle, comme avec Don Ellis ou Jimmy Troupe. Un jour, la contrebasse de Buffy Lips part faire son premier voyage en Europe. Elle en revient pour de longues semaines de travail aux côtés d'Archie Shepp. Là encore, le disque en a gardé la trace. Ce disque, c'est New Think at Newport.
Il y a ce disque avec Archie Shepp, donc New Think at Newport. C'était un coup comme ça, qui Archie, que je connaissais qu'un peu, m'appelle, est-ce que vous êtes disponible, et on a répété pendant 1 mois, tous les jours, pour 1 concert. Et on n'a jamais joué un 2e concert, et je ne savais même pas que la musique était enregistrée. C'était une très belle expérience, parce que la musique, elle était très riche. À l'époque, Joe Chambers, le batteur, il était tout nouveau à New York, donc il était très disponible. Et Bobby Hutcherson, je ne sais pas comment il était si disponible, mais vraiment, on a répété tous les jours pendant un mois, pour un concert, tu vois, pour une heure de musique. Donc, avec des gens de cette qualité-là, on arrive à quelque chose. Oui, 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 mais c'est spécial New York. Et c'est aussi spécial de l'époque. C'était des choses possibles toujours, qui sont impossibles aujourd'hui. Pour Archie, par exemple, c'était un moment unique. Il n'avait pas fait des choses comme ça avant et il n'a jamais refait après. Dans la même veine, la même conception. C'était un moment comme ça. Et même quand on se croise des années et des années après, de temps en temps, sur les festivals, etc., très souvent, il rappelle ce moment-là. Il a dit, ah, un peu de nostalgie et même parfois de dire, et si on reprenait toutes ces choses un peu? Mais non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et ça ne marchera pas. Non, non, c'est un moment comme ça.
Pendant ses années de recherche à New York, Bar Phillips apprend sans doute davantage des compositeurs qu'il écoute que des contrebassistes. Mais il y en a un quand même qui l'impressionne beaucoup.
J'étais touché par Paul Chambers parce qu'il jouait avec Larcher. Et quand je l'ai visité une fois, quand il était en tournée à San Francisco, et un pote à lui l'a monté à sa chambre et il travaillait les suites de Bach dans sa chambre. Là, je me suis dit, ah d'accord. Mais il prenait Larcher en sérieux, quoi. Et même qu'il n'ait pas vécu dans les bonnes circonstances et assez longues pour pouvoir emmener Larcher comme dans le jazz, plus que cette tradition de Slam Stewart, etc., qu'il a très bien fait, hein. C'est bien, je ne dis pas, mais c'était plutôt socialement. Il n'était pas dans le bon endroit pour faire ça à New York. Voilà, c'était quand même divisé. C'était fou à l'époque, les gens qui jouent Larcher et les gens qui ne jouent pas Larcher. C'était vraiment deux camps. Il y a très, très peu de monde. Très, très peu de monde qui faisait les deux. Les techniques étaient... Ils sont nés socialement dans des couches complètement différentes et ça a pris du temps pour se rejoindre. Et les gens qui s'intéressaient aux deux, moi, socialement... Et culturellement, etc., j'étais né dans le bon endroit, là, au bon moment, pour faire les deux. J'ai commencé les deux la même semaine, le jazz et le classique. Mais c'était, ben je le vois maintenant, c'était rare, mais c'est toujours rare.
Thank you.
Il y a des arbres qui poussent dans des directions imprévisibles. C'est le moment où l'arbre Barphillips se sépare de ses racines pour s'épanouir en Europe.
En 67, je suis allé à Londres pour faire autre chose complètement et penser de rester un mois ou deux et que je suis resté plus d'un an, un an et demi à Londres parce qu'il y avait et beaucoup de choses, la proposition de musique de film, même un rôle dans un film, des choses, beaucoup de choses. Théâtre et les concerts. C'était avant, je parle de 67, 68, des expériences avec Marion Brown, de rencontrer les improvisateurs à Londres, donc Evan Parker, Derek Bailey, tous ces gens-là, commencer à jouer avec eux, les Allemands, les gens de Wuppertal, autour de Brotzmann, et tout ça, on commençait à se rencontrer, à faire des productions, à faire des petites tournées, etc. Et c'était totalement différente que mon travail à New York qui était 99% alimentaire. Oui, c'est normal, hein? C'est normal.
Les musiciens novateurs à Londres ne manquent pas, parmi eux le saxophoniste John Surman. Un duo naît, ou plutôt un trio, The Trio, avec le batteur américain Stu Martin.
Les rencontres qui étaient très importantes pour moi, c'était avec John Surman. Parce que notre arrière-plan dans le sens de musique anglo-saxonne, je dirais, plus le jazz actuel, compris le free jazz, était très parallèle, même qu'il y avait il y a 10 ans de différence d'âge entre nous. Mais ça, les années qu'on a pu jouer ensemble, qui finalement c'était 3 ans, c'était pas toute une carrière comme ça, était extrêmement riche et m'a laissé développer parce qu'on avait beaucoup de travail, beaucoup de concerts. Il n'y a pas énormément d'enregistrements, mais beaucoup de concerts. M'a laissé vraiment développer cet aspect-là. Harmino-mélodique, comme on dirait, avec quelqu'un qui était aussi extrêmement riche de sa façon de jouer. Et bon, rythmiquement, avec Stu Martin, on venait du jazz, lui et moi. On avait déjà des histoires de big band ensemble, d'accompagnement des chanteuses ensemble, de connaissances musicales de longue durée déjà. C'est moi qui ai emmené Stu dans l'expérience. Et c'était donc une très riche expérience comme ça, qui a duré le temps qu'il faut.
Le hasard des tournées conduit Bart Phillips en France à la fin des années 60, époque bouillonnante où des amitiés se nouent et où Bart fait ses premières vraies expériences en solo sur la scène. L'initiateur de cette nouvelle étape s'appelle Antoine Bourseiller et avec lui, Bart Phillips entre dans l'univers du théâtre.
C'était une pièce de Victor Hugo dont il n'a pas modifié le texte de tout. C'était Angelo, une pièce classique. J'étais présent au fond de scène, comme ça, avec un tulle devant. Donc, parfois éclairé, parfois pas éclairé. Mais je jouais. Si je voulais jouer tout le temps, je jouais tout le temps. Et donc, j'avais 3 mois de travail intensif, de recherche sur l'instrument que j'avais déjà commencé bien avant. J'avais commencé à New York, j'avais commencé en Californie déjà à chercher sur l'instrument avec l'archer, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ensuite, Bourseiller m'a proposé il a dit, tu dois jouer en solo, tu peux jouer en solo, des concerts. Et il m'a organisé une tournée dans les maisons de la culture, qui étaient maisons de la culture à l'époque, de 6 concerts. Donc je montais un programme qui était composition, les premières parties, comprises Bach, Charles Wittenberg, mon frère, qui a écrit un très beau sonate pour contrebasse seul, qui a écrit pour Tchaïkovski à l'époque, qui était une première partie et deuxième partie, des trucs à moi, de l'impro et des pièces. Déjà, j'ai commencé à voir des pièces de contrebasse solo. Et c'était vraiment déterminant dans le sens de pouvoir être devant un public seul, comme ça. Lui et sa femme, Chantal Darget, ils avaient la confiance en ça. Ils voulaient engendrer ça. C'était rien à voir avec leur truc de théâtre. Ils étaient pas dans la vie, ils produisaient pas de musique. Ils ont fait ça à cause de personnages.
La contrebassiste Joëlle Léandre a assisté à l'un de ses concerts solos offerts par Bart Phillips à Aix-en-Provence.
J'avais à peine 15 ans, 15 ans et demi, et je n'avais pas décidé si je présentais le Conservatoire de Paris ou quoi. C'était donc Aix-en-Provence, ma ville natale. Et avec mon vieux professeur extraordinaire, Pierre Delécluse, et mon frère qui est bassiste aussi, nous sommes partis un jour écouter un bassiste soliste, un Américain. Et j'ai écouté Bart, j'ai entendu ce musicien, et sûrement jouant un solo, une partie de Bach, ça devait être une suite sûrement, un mouvement, et aussi une pièce où Bach jouait Pieds, Arco, et il y avait 5-6 pupitres en long comme ça, comme un accordéon, et il jouait puis se déplaçait comme ça, et cette pièce était apparemment très très longue, solo, donc j'ai entendu un solo d'une bonne heure. Et je pense qu'il fait partie de mes molécules, comme on peut rencontrer des musiciens ou une lecture, un poème, ou on va savoir.
En solo, toujours, Barre-Philips apparaît aussi quelques années plus tard aux côtés des danseurs du groupe de recherche de l'Opéra de Paris, animé par la chorégraphe américaine Caroline Carlson.
Et quand elle était nommée à l'Opéra, il a fallu que tout de suite, elle présente sur scène quelque chose. Et donc, elle a opté pour faire ça, qui était un duo avec elle, son partenaire et moi, et avec la contrebasse sur scène. Je ne jouais pas dans le sens de mouvement comme danseur, j'étais statique dans le mouvement, mais sur scène. Et ça, bon, aussi en solo, mais de passer des petites salles dans à la salle Garnier, c'était quelque chose de jouer ça. Donc ce premier spectacle, on a joué 13 fois. Donc pendant 6 ans, je travaillais peut-être la moitié de mes activités, c'était avec Caroline. Donc je n'ai pas fait toutes ces musiques, elle a travaillé avec des autres musiciens. Mais c'était très riche ce travail, parce que ça m'a commencé à être au-delà de juste la musique pour le son, la musique et l'image. Parce que j'ai appris très vite, tu peux écraser l'image avec la musique. Ce n'est pas pour les décibels, hein, ça c'est une chose, mais l'information, qu'il y a un juste équilibre à trouver.
Mais là, le rapport à la danse, est-ce qu'il a modifié des choses dans ta manière de jouer, physiquement?
Oui, beaucoup, beaucoup. Mais moins physiquement dans le rapport avec l'instrument, mais dans le rapport avec l'espace. Et l'espace, pour moi, était que sonore et pas bien défini dans ma tête. J'avais pas de réflexion de l'espace sonore encore dans ma tête. Mais de commencer à travailler après cette première création dans l'espace, parce qu'elle m'invitait de devenir pas danseur. On n'a jamais essayé de me faire passer pour danseur, mais la présence avec l'instrument. J'étais très à l'aise pour jouer avec l'instrument. Elle a saisi ça, hein, que c'était pas un problème à moi de le faire. Et donc la conception de l'espace et de l'effet sonore dans l'espace physique était venue très fort et que j'ai commencé à être très conscient de ça.
Pour moi, la musique est une chose absolument essentielle qu'en réalité, je ressens de l'intérieur, j'entends des sons. Quand je travaille avec Bach, la musique et la danse se retrouvent dans le même espace. Et j'aime beaucoup travailler avec des musiciens parce que je trouve que souvent, ils ont un espace intérieur plus important que les danseurs.
Thank you.
La France a proposé à Barthélips des collaborations au long souffle. L'arbre a fait de nouvelles racines qui ont trouvé dans le sud de la France une nouvelle terre propice. C'est en France que Barthélips se découvre, au hasard d'un projet radiophonique, une nouvelle passion, la transmission.
Il y avait une productrice qui m'a invité de donner un stage. Pour la première fois, c'était en 76, 10 jours, 6 heures par jour. Mais j'avais un an de préparation pour réfléchir et vraiment préparer la chose. Je travaillais beaucoup pour préparer ce stage et j'avais arrivé au point, si la première note qu'on joue est la bonne, tout le reste est simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire si la première note est bonne, la bonne note? C'est quoi la bonne note, la bonne première note? Ben, on a travaillé 10 jours sur la première note et pas la deuxième. C'était dur pour les stagiaires, mais sans rester.
C'est toujours vrai, ça, quand la première note est bonne, et pour l'improvisation, plus généralement.
Il y a plusieurs niveaux de la chose. Il y a les rapports humains, dans le sens d'avant, même si l'avant, ça fait 20 ans, ou si ça fait 5 minutes, ou ça fait un jour, etc. Il y a tout le rapport avec les gens. Il y a les rapports dans la musique à l'acte lui-même et il y a la qualité musicale. Et la qualité musicale, on ne peut pas la valoriser pendant qu'on le fait. C'est impossible. Si tu commences à faire ça, tu es complètement out. Il faut être pas out, but in, tu vois, pour pouvoir faire quelque chose. Tu vois. Et dans toute cette richesse-là, de toutes ces possibilités-là qui sont dans la fabrication de la musique. Donc ça, on peut le valoriser 10 ans plus tard. À l'écoute, 5 ans plus tard. La chose pour la première note, c'était donc, ça concernait toute la musique, mais si on arrive à la première note avec toutes les bonnes préparations, c'est ça qui est important. Ensuite, l'acte lui-même, mais c'est tout ce qui procède, qui amène à ce moment-là, c'est comme le concert. Pour un concertiste, là, c'est les moments de vérité de sa vie. Tout le reste est en rapport avec ça. Et pendant des années, jusqu'à que le reste de sa vie devient au même niveau que le concert. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Et je crois que les soufis, c'est à ce moment-là qu'ils arrêtent de jouer. Ils ne restent qu'avec la poésie et l'enseignement. Je ne suis pas un soufi. J'adore jouer.
Bach est un musicien voyageur. Je vois les traces de ses voyages comme une toile autour de la planète. Cet ensemble de lignes s'enflamme là où il a joué, seul ou avec d'autres. Je réalise que cette musique contribue à l'équilibre du monde. Comment ? Je l'ignore. Je, c'est le cinéaste Robert Kramer. Après le théâtre et la danse, c'est l'univers du cinéma qui fait son miel des musiques écrites ou improvisées de Barthélips.
J'ai rencontré Robert en 1980. C'était un cinéaste militant américain. Et Robert est invité, il vient, il fait un film d'auteur avec une production française. Et les producteurs, les acteurs, les gens qui arrivent à connaître, ils disent « la musique de film, la musique de film ». Et il dit « non, 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 je suis contre la musique de film ». Et finalement, il dit « s'il y a musique de film, je veux une basse ». Bon. Et finalement, je fais la musique pour ce film qui était modeste. Hein. On a fait un trio et le film « Guns ». Et donc, on se sympathisait avec Robert. Des Américains, Californiaux, New Yorkais, un peu la même génération. Et donc, il commence une amitié comme ça, et il aime bien le travail, et il m'invite de plus en plus à venir travailler avec lui, qui était passionnant, ce travail, que je fais avec un grand plaisir. Et c'était très riche, on a bossé 20 ans ensemble.
Et peu à peu, tu as réussi à le convaincre qu'il pouvait y avoir une musique de film intelligemment conçue?
C'était la première note qui était importante. Encore une fois. Je dis, pour moi, la musique, ça sera comme s'il y avait un regard d'une autre planète ou une autre dimension à la scène de qu'est-ce qui se passe là. Et il a dit, eh bien, vendu.
C'est ça.
Vendu, j'achète. Et le travail a commencé là.
Robert Kramer faisait de Barphillips un musicien voyageur. Les voyages, les transhumances font partie, c'est vrai, de l'ordinaire des musiciens improvisateurs, ouverts aux rencontres. Mais à Pugéville, où Barphillips s'est installé il y a plus de 35 ans aujourd'hui, le musicien cultive soigneusement ses racines, son jardin, et il a fait grandir quelques projets, rencontres avec les musiciens de la région, nombreux workshops, donc de plus en plus de musique improvisée et de moins en moins de compositions.
C'est un vrai métier, il faut être passionné de ça. Moi, je suis un manuel. Mon frère est compositeur. Et c'est intéressant, le chemin de tous les deux, sans raconter sa vie à lui, mais c'est le mental, l'intellectuel, l'académique, depuis l'âge de 23-24 ans. Il ne joue plus après. Et moi, le manuel, dans la famille. Et c'est très bien comme ça. Le côté de compositionnel, oui, c'est passionnant, mais c'est dur, c'est angoissant. C'est quand je suis là, dans la maison, c'est l'enfer. Quand je suis dans un truc de faut maintenant, dans ces prochaines 96 heures, pondre le truc, personne ne peut parler. Fermez cette radio, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis... C'est pas un plaisir. C'est pas comme un compositeur qui se lève à tous les jours, 5 heures, il travaille de 5 heures à 9 heures, sa composition. Non. Donc moi, je suis dans le jardin. Oui. Ou les années de vraiment jouer beaucoup l'instrument. Oui, j'adore ça, je fais ça des heures. Mais trouver le bon intervalle au bon moment sur le papier, oui, je le fais. Mais c'est pas un plaisir.
Puisque tu parles de jardinage, on peut parler un peu de la campagne et de l'endroit où tu t'es installé.
Un beau jour, sans aller dans les détails, à tomber sur ce site à l'abandon, donc un village de Moyen-Âge abandonné, dont il en reste un peu, qui est récupérable, comme ça, et de dire Et ensuite, le lieu commençait à me parler beaucoup. Et j'ai vu des possibilités énormes de faire beaucoup de choses différentes sur le plan culturel avec ce lieu. Alors, j'ai pris un risque. Je me dis, est-ce que tu peux continuer à être actif comme musicien et pas avoir un téléphone? Oui. Est-ce que ça peut marcher? Ben, ça marche. Ça peut marcher. Quand j'étais petit, pendant la guerre, j'ai vécu avec la famille 3-4 ans, en pleine nature, dans la forêt, une bonne partie de ça aussi sans électricité. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les arbres, la nature et les arbres. Et ça revient de, avant cette expérience là où j'habite, c'est il y a 30 ans, d'être dans la forêt avec les arbres comme ça. Je suis à la maison. Je suis très confortable.
Dans sa campagne, Barphillips a relevé un défi. Beaucoup de musiciens s'arrêtent là, jouent et repartent avec des idées plein la tête. Mais Barphillips voyage encore au gré des sollicitations pour retrouver par exemple Ursula M. Gruber et Jacques Demière avec lesquels il forme un trio de longue haleine.
On a fait le premier concert en décembre 1999. Et Urs, je l'ai rencontré, j'étais invité par Fred Frith à faire un concert en trio, donc dans la présence d'Urs. On se sympathisait, le concert de Fred était très fort, etc. Et ensuite, Urs m'a proposé à essayer de jouer avec Jacques, que je connaissais un tout petit peu, mais on n'avait pas vraiment joué ensemble. Et ça m'intéressait. Et ce qui est fascinant, c'est que cette musique, elle n'arrête pas d'évoluer à travers les 10 ans. C'est pour ça que je continue à la faire. Mais c'est le seul groupe avec lequel je participe. Je dis oui, je joue dans un groupe. Oui.
Alors, au quotidien maintenant, tu as un groupe, tu as un trio, donc avec Jacques et avec Urs, de temps en temps vous jouez ensemble. Tu animes des masterclass, des workshops, des stages. Tu as d'autres projets?
Oui, ce jardin.
Le jardin.
Je travaille toujours un peu avec la danse, hein, avec Julian Hamilton, notamment, oui. Oui, mais aussi, il y a des quelques personnes de Nice, Arles, comme ça, qui sont très intéressantes, des danseurs, et on fait des petites choses. Je suis plus un musicien local, maintenant. Je suis plus ouvert à faire des choses près de la maison, pour que je peux dormir dans mon lit et qu'il n'y a pas trop de voyages, voilà, comme ça. Et c'est plus sympa, c'est plus sympa. Donc, c'est une vie simple, mais ça bouge quand même.
Bar Phillips, tel qu'en lui-même, une émission réalisée grâce à la complicité de Pierre Monteil, Béatrice Trichet et Dorothée Goll. Il est minuit sur France Musique et l'heure est venue maintenant de vous régaler avec nos programmes de nuit.